Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, un plaisir toujours de vous retrouver cette semaine. Priez l'Évangile. Bien qu'il existe plusieurs livres et ressources disponibles pour prier la parole de Dieu, cela peut constituer un défi pour certaines personnes. D'autres peuvent ressentir le besoin de renouveler leur fréquentation de la parole de Dieu, de l'Évangile. Notre invité nous partagera comment aller au cœur des Évangiles, particulièrement le quatrième Évangile, par le moyen de la Lectio Divina. Notre invité a publié « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc en 2020 ». Aujourd'hui, tu seras avec moi. Priez l'Évangile de Luc en 2021, au banquet du royaume, priez l'Évangile de Matthieu en 2023, et il vient de publier en 2025, En lui la vie, priez l'Évangile de Jean. Notre invité est bibliste, enseignant, conférencier, auteur, chanoine régulier de Prémontré et évêque de Bathurst depuis octobre 2023. Bienvenue, Monseigneur Michel Proulx.
Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis heureux d'être avec vous.
C'est une joie de vous recevoir et vraiment c'est un exploit d'avoir publié 4 volumes pour nous aider à prier les Évangiles en quelques années. Et aujourd'hui particulièrement, on va insister sur prier l'Évangile de Jean. J'étais frappée d'ailleurs par votre titre. C'est pas prier avec l'Évangile, mais c'est prier l'Évangile. Il y a une petite nuance que vous allez nous expliquer. En fait, quelles ont été vos motivations à publier en si peu de temps 4 volumes sur prier l'Évangile?
Oui, ben depuis plusieurs années, j'ai la joie avec des groupes de faire cette expérience de les introduire à la fois à la Lectio Divina et à la Lectio Divina appliquée à des textes de l'Évangile. Et puis, j'ai pu voir comment ça portait des fruits, la joie que cela rapportait de pouvoir entrer dans les textes bibliques, mais pas seulement avec une lecture superficielle, un peu intellectuelle, mais oui, les comprendre, mais aussi pouvoir les accueillir. Et je dirais même entrer dans un dialogue, ce que permet la Lectio Divina, entrer dans un dialogue avec le texte, mais surtout avec celui que nous propose de rencontrer le texte, c'est-à-dire avec Jésus, avec son Père. Alors, je me suis dit, faut faire partager ça plus largement à un public plus large qui pourrait en profiter. Et, Mediapol m'a vraiment soutenu dans ce projet, a cru en ce projet. Et voilà, c'est comme ça que sont nés ces quatre volumes.
Monseigneur Michel Proulx, l'Évangile de Jean n'est pas tout à fait comme les autres évangiles. Et pour certaines personnes, ça semble être un évangile plus intellectuel, plus de concepts, des grands discours de Jésus. Comment vous présentez l'Évangile de Jean dans votre volume « Priez l'Évangile de Jean » ?
Ben, tout d'abord, oui, c'est vrai que c'est assurément l'Évangile de Jean est très différent des 3 autres. Mais il n'est pas si difficile que ça d'accès lorsqu'on en a une vue d'ensemble. Souvent, ce qui rend l'accès à ce texte-là difficile, c'est qu'on n'en connaît que des petits bouts, souvent ceux qui sont proclamés dans les liturgies, spécialement la messe du dimanche. Et je vous dirais que s'il fallait se mettre, lorsqu'on suit une télésérie, s'il fallait se mettre à écouter que des portions d'épisodes, en sauter quelques-uns, je pense qu'on se sentirait bien perdu, même avec la meilleure des téléséries. Alors, c'est la même chose. Oui, dans mon livre, je pouvais pas me permettre d'écrire un très gros livre, mais j'ai essayé de donner une vue d'ensemble, avec une introduction, avec des textes clés qui permettent de nous apprivoiser vraiment avec cet évangile-là. Et puis, j'accompagne la lectrice, j'accompagne le lecteur, souvent en l'aidant à se familiariser avec le contexte historique, en l'aidant à comprendre des expressions, en comprenant la société du temps qui est assurément différente de la nôtre. Alors, j'ose espérer que par ce biais-là, bien, l'Évangile devient vraiment plus accessible pour la lectrice et le lecteur.
J'étais frappée aussi, Monseigneur Michel Proulx, par le titre de ce volume, « En lui, la vie ». Prier l'Évangile de Jean. En lui, la vie. Est-ce que c'est le fil conducteur des 13 textes que vous avez choisis?
Oui, non seulement le fil conducteur des 13 passages que j'ai choisis, mais le fil conducteur du quatrième Évangile lui-même. Et j'en suis devenu, je savais pas quel titre j'allais donner à mon livre avant de commencer à le travailler. C'est devenu évident une fois que je l'ai écrit en entier. Et c'est que j'ai vraiment mieux compris que pour Jean, pour lui, c'est clair que si Jésus a été envoyé dans le monde, c'est pour nous offrir une vie d'un autre ordre, que l'évangéliste appelle la vie éternelle. Mais un qualificatif qui peut être piégé parce que cette vie qui nous est offerte, on peut y entrer dès maintenant, dès cette vie-ci. Dans le fond, dès qu'on met sa foi en Jésus, on entre dans cette autre dimension de vie. Et il dit que, dans le fond, il faut y naître à cette vie-là. Pour ça qu'il parle d'une deuxième naissance. Il explique ça à Nicodème, une naissance qu'il appelle d'en haut. Et tout l'Évangile est traversé par un double mouvement. Il y a une descente du Fils de Dieu qui vient sur la terre, hein, ce qui est l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Hein, mais c'est en vue, il vient en bas dans notre monde pour nous communiquer cette vie-là. Et il remonte vers son Père dans le mouvement de la mort sur la croix et la résurrection pour nous offrir la possibilité de monter avec lui. Dans le fond, et tout ça est centré sur la vie. Hein. Il va dire qu'en lui est la vie. Et oui, la porte d'entrée à cette vie-là, c'est la foi, mais il faut la nourrir, cette vie-là. Alors, elle se vit dans une intimité avec le Seigneur, par la prière, et il se présente, Jésus, comme l'aliment de cette vie-là. Au centre de son évangile, au centre, disons, au chapitre 6, il y a ce grand discours sur le pain de vie, où il se présente comme une nourriture, comme une boisson, à travers laquelle peut être alimentée cette vie qui nous est donnée par la foi. Et, bien sûr, il nous appelle un jour à aller vivre cette vie nouvelle dans un nouvel écosystème, si je puis dire, dans un nouvel environnement qui est celui qu'il appelle en haut, donc de rejoindre le Père, de rejoindre le Fils dans sa résurrection. Et pour y arriver, il faut nous-mêmes, nous aussi, passer par cette mort et une résurrection semblable à celle de Jésus. Et il nous montre comment il peut donner cette vie à travers le chapitre 11 où il ramène Lazare à la vie, quelqu'un qui était mort depuis 4 ans, pour montrer que vraiment en lui est la vie et qu'il peut communiquer une vie nouvelle. Alors, il explique ça aussi, par exemple, à la Samaritaine en disant qu'il est l'eau qui va faire jaillir la vie, etc. Puis il y a tous les récits aussi de où il se présente vivant au-delà de la mort là à la fin de l'Évangile. Alors voyez-vous, c'est vraiment le fil conducteur, c'est magnifique.
C'est absolument magnifique. Et si on regardait, on lisait l'Évangile de Jean juste en identifiant où le mot « vie » ou « vivant » apparaît, je pense qu'on le verrait extrêmement souvent. Alors, on voit bien que c'est la ligne. Et je pense que la manière dont vous invitez les gens à prier, donc l'Évangile de Jean, eh bien, ce fil conducteur, il est là. Mais avant de voir quelques récits particuliers, vous en avez choisi 13, on va en regarder quelques-uns. Parlez-nous de la Lectio Divina. Vous présentez ça dans votre livre « En lui la vie, prier l'Évangile de Jean » dans les premières pages. C'est une méthode qui existe depuis au moins le Moyen Âge, vous le soulignez, mais peut-être pas assez connue. Rappelez-nous ce que c'est et comment on peut l'utiliser pour prier justement l'Évangile de Jean.
Oui, bien sûr, c'est un trésor hein, qui se transmettait dans les monastères. et qui a été limité pendant longtemps au milieu des monastères, comme les chanoines réguliers de Prémontré ou les moines et tout ça. Et c'est une lecture qui veut permettre d'entrer vraiment dans une écoute profonde de la parole et de pouvoir y répondre, donc de favoriser un dialogue. Il y a plusieurs étapes, mais disons, les trois principales, celles d'ailleurs que je propose dans mon livre, c'est tout d'abord la lectio. Lectio qui signifie lecture. Donc, il s'agit dans un premier temps de lire le texte. Ça peut paraître banal, mais c'est toute l'idée de ne pas projeter tout de suite nos perceptions, comment ça me rejoint, tout ça. Non, essayez tout d'abord de comprendre le texte, hein, en le prenant, en répondant à la question « qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce qu'il dit? » On le prend tranquillement, on le lit tranquillement, en ayant d'abord invoqué l'Esprit-Saint, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple lecture, mais d'une lecture qui est guidée par l'Esprit-Saint. Alors, ça doit être fait d'abord dans un contexte de prière. Après qu'on a bien compris le texte, qu'on a pris le temps d'en saisir le sens, hein, en lui-même, eh bien, il y a l'étape de la méditation. On entend le mot méditation là-dedans. Donc, c'est l'étape où là, on essaye de voir comment ça peut me rejoindre moi. Hein? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça dit pour notre Église, pour notre temps, pour notre monde? C'est comme une étape d'actualisation. Mais c'est important d'attendre cette deuxième étape, parce que sinon, le risque, c'est de projeter dans le texte qu'est-ce que je veux qu'il dise. Puis le texte risque d'être un simple miroir de moi-même, alors faut éviter ça. C'est pour ça que dans un premier temps, la lectio, on lit le texte en écoutant ce qu'il dit. On le laisse parler. Dans le deuxième temps, comment ça me rejoint? Et là, ces deux premières étapes me permettent éventuellement d'entendre Dieu me parler. Alors, j'ai été à l'écoute. Et là, la troisième étape, qu'on appelle oratio, qui signifie en latin prière, on connaît le mot oratoire, Saint-Joseph, oratio, eh bien, là, c'est le temps de répondre à ce que j'ai entendu. C'est l'étape de la réponse. Qu'est-ce que je dis à Dieu ou à Jésus en partant de ce que j'ai entendu? Je peux avoir été interpellé, je peux avoir été remis en question, je peux avoir été confirmé, encouragé, reçu une bonne nouvelle. Alors, c'est le temps de prier avec ça. Hein?
Vous avez une expression, les trois étapes, merci. Et vous avez une expression absolument intéressante. Vous dites, vous encouragez les gens à faire équipe avec l'Esprit-Saint.
Oui, c'est ça. Oui.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ben, ça veut dire que je compte pas seulement sur mes propres ressources. Dans les monastères, depuis le Moyen Âge, nous sommes persuadés que ces textes-là ont été les écrivains qui ont écrit ces textes-là, les communautés qui les ont portés, ont été animés par l'Esprit-Saint. Hein? Dieu veut entrer en relation avec nous, il veut communiquer avec nous. Eh bien, ce même Esprit, nous croyons qu'il est agissant aussi en nous lorsque nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole et lorsque nous passons par ce moyen privilégié qui sont les Saintes Écritures. Alors, c'est dans ce sens-là que il faut s'en remettre au travail de l'Esprit-Saint. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on fait équipe. Je fais mon effort pour comprendre le texte, mais j'ai la conviction dans la foi que je suis aidé. Je ne suis pas laissé à moi-même.
Monseigneur Michel Proulx, comment votre livre, comment on peut l'utiliser, avant d'aller dans les textes tout à l'heure que vous avez choisis, comment on peut l'utiliser justement pour peut-être cette première étape et peut-être un défi vraiment d'être à l'écoute du texte et non pas d'y voir ce que je voudrais vraiment y voir seulement, parce que souvent il y a peut-être même des expressions qui nous sont plus étrangères, parce que c'est quand même un texte qui a été écrit il y a très longtemps, qui nous est parvenu heureusement, mais quand même écrit. Donc il peut y avoir quelquefois des interrogations qu'on peut avoir sur certaines expressions ou peut-être pas bien comprendre. Comment votre livre peut nous aider à partir de cette étape-là?
Non seulement l'Évangile de Jean est écrit depuis longtemps, mais aussi il est issu d'une autre culture que la nôtre, ce qui occasionne un autre défi. Ben, tout d'abord, en lisant l'introduction de mon livre, où je donne des pistes, des clés qui permettent de comprendre dans quel contexte l'Évangile de Jean est écrit. Je le resitue historiquement, dans son contexte culturel, mais aussi pour chacun des 13 textes qui sont abordés, je prends le temps de vraiment examiner le texte attentivement, en expliquant les mots qui sont difficiles, en expliquant les expressions qui relèvent d'une autre culture et qui risquent d'être mal compris, souvent en voyant à qui ça s'adresse. Et alors, voyez-vous, ce sont des éléments qui peuvent aider. Après ça, mon livre, on peut en tirer profit de deux façons. Soit qu'on le lit au complet d'un bout à l'autre, dans l'ordre, en suivant l'ordre de l'Évangile, ce qui amène vraiment à donner une vue d'ensemble. Et peut-être qu'une première lecture, ça serait ça. Mais après ça, ça demeure un outil qu'on a dans notre bibliothèque et qu'on peut ressortir à chaque fois que le texte en question, il est publié à la messe, il est proclamé à la messe du dimanche, hein, parce que les 13 textes que j'ai choisis, je les ai choisis parce que ce sont 13 passages qui sont proclamés à la messe dominicale dans l'Église catholique. Voilà.
Vous êtes toujours à l'écoute de Questions d'aujourd'hui. Nous recevons Mgr Michel Proulx, évêque de Bathurst, et il nous présente son livre « En lui, la vie, prier l'Évangile de Jean ». Donc, on se disait il y a quelques instants comment on peut utiliser votre livre pour cette Lectio Divina, donc de bien comprendre le texte, ensuite d'aller dans la méditation et terminer par une prière, si j'ai bien compris les trois étapes.
C'est excellent.
Merci. Et donc, on peut s'aider, on peut lire, on peut utiliser un chapitre ou l'autre, on peut lire le livre au complet, c'est ce que vous nous disiez, et ça peut nous aider peut-être à découvrir justement, peut-être comprendre l'intention, en tout cas, de l'Évangile de Jean par rapport à certaines expressions qui sont utilisées. Et je vois aussi que vous vous êtes beaucoup appuyé sur des travaux d'exégèse qui sont récents parce que il faut le dire, je pense aux auditeurs auditrices que on n'a jamais fini de découvrir la parole de Dieu, la Bible, et que les études exégétiques peuvent aider à découvrir des fois des nouveaux sens. Pouvez-vous juste nous parler un peu des sources qui vous ont inspiré?
Bien sûr. Alors, voyez-vous, dans ce livre, je dirais que je vous partage le fruit de ma propre prière, de ma propre Lectio Divina que je pratique depuis plus de 30 ans, quotidiennement, parce que c'est un des piliers de la spiritualité, de l'ordre auquel j'appartiens, les chanoines réguliers de Prémontré. Mais aussi, je suis un bibliste, j'ai enseigné avant d'être évêque pendant une trentaine d'années aussi la Bible, l'exégèse, que ce soit aux séminaristes, aux agents, futurs agents de pastoral, etc. Alors, j'ai aussi cet entraînement à aller tirer profit des chercheurs, des chercheuses, ce qu'on appelle les exégètes, hein, les spécialistes de la Bible. Alors, j'ai essayé à travers ce livre de mettre aussi à la portée d'un public plus large, les découvertes, le fruit des recherches des spécialistes des textes bibliques d'aujourd'hui. Alors, les travaux les plus récents sur l'Évangile de Jean. Et j'ai la grâce, Renaud, figurez-vous, de bien connaître le grec ancien. Je l'ai beaucoup travaillé. Alors moi, je lis couramment les quatre évangiles en grec. Mes travaux, ma prière, c'est à partir du grec. C'est la langue originale dans laquelle a été écrit l'Évangile de Jean. Alors, ça me permet un accès au texte et privilégié, je dirais. Et vous avez lu mon livre, vous avez vu qu'à divers moments, je fais référence aux mots grecs, je vous les explique, je montre ce que ça peut apporter comme nuance que l'on peut perdre à cause... on a des bonnes traductions, vous savez, en français, mais une traduction, c'est toujours une traduction. Et j'essaie de vous montrer aussi les nuances qu'il y avait dans le grec et que j'essaie de redécouvrir, de vous faire redécouvrir. Donc, les fruits de ma prière, les fruits des études plus récentes au niveau intellectuel, des chercheurs, des chercheuses, et aussi un travail à partir de la langue d'origine de l'Évangile de Jean.
Ben justement, donnons un exemple qui m'a frappé. D'abord, au deuxième chapitre, vous nous aidez, Mgr Proulx, à découvrir Jésus et l'appel des disciples, qui est bien différent des évangiles de Marc, Matthieu et Luc. puisque c'est Jean qui va désigner au futur disciple de Jésus, hein. Il va dire, ah, regardez, voici l'agneau de Dieu, hein, Jésus qui marche.
Oui, oui.
Et Jésus se retourne et demande, que cherchez-vous? Et eux, deux de ses disciples disent, Rabbi, où demeures-tu? Alors, le verbe demeurer. Alors, on croirait, est-ce qu'on veut avoir l'adresse du Seigneur?
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ce n'est pas ça que vous dites. Vous dites, il y a vraiment un sens du verbe demeurer, hein, qui est un terme qui est un attachement définitif et permanent à Jésus.
Oui, tout à fait.
C'est formidable.
Oui, s'établir de demeurer, il y a aussi l'idée d'une permanence. Vous savez, quand on dit ça demeure depuis tant de temps, hein. Donc, il n'y a pas seulement l'habitation, mais il y a aussi la relation d'intimité, hein, qui est le fait de s'établir de s'ancrer dans quelque chose. Et le verbe demeurer est extrêmement important dans l'évangile de Jean. Il sert notamment à traduire la relation d'intimité. C'est une des façons dont on exprime la relation d'intimité entre Jésus et son Père, mais et dans laquelle nous sommes invités à demeurer. Dans le fond, on est invité à faire notre demeure dans cette relation qu'il y a entre le Père et le Fils, à y participer. Donc, nous participons non seulement à la vie de Dieu, mais aussi dans cette dynamique d'amour, dans cette relation qu'il y a entre eux. Et c'est le trésor que Dieu voudrait partager avec nous. Donc, où demeures-tu? Dans le fond, c'est où es-tu ancré? Où es-tu, dans quoi, pardonnez-moi l'expression, es-tu grounded? Hein? Dans quoi? C'est très profond.
Et vous nous faites prendre conscience, Monseigneur Michel Proulx, que ce verbe demeurer et la demeure, est à d'autres endroits aussi dans l'Évangile. Et quand Jésus particulièrement dit, je m'en vais, je vais vous préparer une demeure, on voit bien qu'il y a quelque chose de très près du verbe demeurer. Donc, ça nous fait penser à d'autres éléments dans l'Évangile que vous mettez très bien d'ailleurs en relief dans votre livre. Monseigneur Michel Proulx, j'aimerais vous amener au chapitre 10 de l'Évangile de Jean. C'est votre 5e chapitre dans votre livre. Et là, vraiment, je dois dire aux auditeurs, auditrices, que je pensais tout savoir sur ce chapitre qui est très connu. Hein, c'est l'épisode du bon berger. Hein?
Tout à fait, oui.
Celui qui n'entre pas par la porte vers l'enclos des brebis, mais grimpe par un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Et à celui-ci, le portier ouvre la porte. Alors, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et là, souvent on utilise ce passage très sympathique avec beaucoup dans la catéchèse et c'est très bien, la pastorale. Mais on reste peut-être à un niveau un peu, d'images qui sont sympathiques, mais qui nous permettent peut-être pas d'aller très loin. Or, vous nous surprenez en nous disant, Monseigneur Proulx, Jésus, il est la porte. Et vous nous amenez sur ce terrain-là. Alors là, vraiment, là, et ça termine ce chapitre-là aussi, sur la vie. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance.
Mm-hmm. Oui, puis souvent on a une image de Jésus comme berger qui est inspirée, vous savez, de cette belle parabole là, dans l'évangile de Luc, où est-ce que Jésus ramène la brebis perdue sur ses épaules. Alors on se rappelle peut-être d'images pieuses qu'on avait là quand on était enfant avec un beau Jésus avec un petit berger, une petite brebis sur les épaules. Ça donne l'impression d'un Jésus très doux. Mais dans l'évangile de Jean, c'est un passage qui est polémique, où est-ce que Jésus, quand il se présente comme le berger, puis qu'il parle du loup qui vient et tout ça, c'est l'image d'un berger viril, qui est fort, qui est capable de s'opposer au loup. C'est pas un petit Jésus doucereux. Et c'est un passage où quand Jésus dit « Moi, je suis le bon berger », ça veut dire que malheureusement, les chefs religieux de son temps, eux ne l'ont pas été. Et c'est vraiment une pointe polémique contre eux, c'est vraiment une critique très très acerbe. Et quand il dit qu'il est la porte et qu'il, littéralement en grec, il pousse dehors les brebis, les fait sortir, Ben, ça nous rappelle que malheureusement, les Juifs du temps de l'écriture de l'Évangile de Jean, ceux qui se et celles qui se convertissaient à la foi juive, ils étaient excommuniés, ils étaient chassés des communautés juives. Et Jésus, donc, se présente comme, ça devait être traumatisant de se faire excommunier, de se faire jeter dehors. Eh bien, Jésus se présente comme celui qui peut les conduire vers la vie. Hein, ils vont pas perdre leur salut. Il est une porte qui donne accès à Dieu. Même s'ils ne peuvent plus aller au temple, même s'ils sont rejetés de la synagogue, Jésus leur donne un accès à Dieu qui va leur procurer la vie. Alors que les Juifs leur laissaient entendre qu'ils sont perdus, hein, puis ils sont jetés dehors de la communauté du peuple élu. C'est très intéressant.
Il y a ce mouvement aussi des brebis, entrer et sortir. C'est comme s'il y avait une liberté
Exactement.
Que le Christ donnait à ceux qui le suivent. Et pas seulement dans le contexte aussi où est écrit cet évangile. Donc, il y a comme une liberté, et Jésus va le dire plus tard aussi à ses disciples, la vérité vous rendra libre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est similaire, entrer et sortir?
Oui, tout à fait, parce que Jésus est un leader qui n'est pas un gourou, qui va pas enfermer, qui n'est pas dominant, dominateur. Et alors que du temps de Jésus, beaucoup de Juifs, malheureusement, faisaient l'expérience d'un judaïsme qui les écrasait avec tellement de lois, tellement de règles. Et Jésus leur propose un chemin vers la vie où il y a de la liberté. Hein? Il fait appel à leur bonne volonté, mais ils sont libres. C'est pour ça qu'il parle, qu'il est une porte où l'on peut entrer et sortir.
Vous parliez, Mgr Michel Proulx, au début de notre entretien, que vous avez mis en évidence dans votre livre « Cette descente du Fils de Dieu vers nous, vers les croyants, vers ceux qui l'appellent, vers tous ceux qui peuvent entendre sa voix ». Tous ceux qui écoutent sa voix, et en même temps ce mouvement d'élévation avec la croix, avec la résurrection. On n'a pas le temps d'aborder tous les autres chapitres de votre livre « En lui, la vie, prier l'évangile de Jean ». Mais ça continue, donc merci beaucoup. Et je vous donne... qu'est-ce que vous souhaitez que ce livre apporte aux personnes qui pourront se le procurer?
Ben, qu'ils puissent rencontrer encore plus profondément le Seigneur Jésus, et puis qu'ils aient le désir, puis qu'ils expérimentent, dans le fond, à travers ce livre, un dialogue avec le Seigneur, un dialogue vivant, une relation avec le Père.
Mgr Michel Proulx, merci beaucoup. Merci.
Avec joie.
Et je rappelle le titre du livre, « En lui, la vie, prier l'Évangile de Jean » à Médiapol. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Au micro, Renaud Grégoire, merci de votre présence et je vous dis à bientôt.